Bonjour Chloé Delhomme,
Bonjour.
bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir au téléphone.
Mais je vous en prie, j'espère juste qu'en dépit de ma grippe, je serai audible.
Pas de problème, ça passe très très bien. Alors, ma première question, c'est comment s'est mis en place, en idée notamment, l'expérience de ce texte, l'expérience de regarder aussi longuement et longtemps la télévision?
Le truc en fait, c'est que si je voulais vraiment vérifier la phrase de Leleu, c'est-à-dire vérifier sur mon corps et ma pensée l'effectivité du biopouvoir, je dirais, j'étais obligée de jouer le jeu parce que si c'était juste juste romancé mais dans le vide, ça me semblait pas être intéressant. En plus, moi, ce que j'aime quand même dans le travail, c'est les mises en situation, toujours de l'immersion totale à un moment donné. Et pas seulement pour la phase d'écriture, pour la phase de préparation aussi. Donc en fait, j'avais décidé 22 mois parce que c'est le nombre de versets de l'Apocalypse et ça me semblait bien, mais j'ai tenu 16, puis j'avais fini au bout de 16, donc j'ai fait des phases, si vous voulez, avec les après-midi pendant 2 mois, d'abord TF1, ensuite France 2, ensuite France 3, etc. Et puis ensuite, puis parallèlement, je ciblais aussi les émissions de divertissement et les émissions de télé-réalité. Et puis bon, du coup, les pages publicitaires aussi et la façon dont tout ça s'agençait. Mais le but du jeu n'était pas de faire un essai sociologique ou quoi que ce soit de ce genre. C'était vraiment de subir beaucoup, de vivre ça, quoi. Et ensuite d'essayer de construire à partir de ce ressenti-là.
Voilà, c'était pour l'introduction, pour placer un petit peu le livre. Moi, j'ai plutôt envie de vous questionner sur l'œuvre de fiction, parce que pour moi, c'est J'habite dans la télévision est une œuvre de fiction.
Oui, tout à fait.
Alors, ma première question, c'est est-ce encore un roman?
Oui, en fait, le truc qui est bizarre, c'est que d'habitude, je pense, enfin pas d'habitude, mais par exemple, j'avais fait un livre en 2003 qui s'appelait Corpus Sims 6, ça se passait à partir et dans le jeu vidéo des Sims, qui est donc un jeu de simulation de vie. Et bizarrement, je sais pas, les gens disaient objet, mais des fois où je disais roman, personne me contrariait, alors qu'il y avait des images. Et cette fois-ci, enfin, je sais pas, je crois que c'est pas précisé sur le livre à chaque fois quel genre c'est, mais pour moi, c'est un roman d'autofiction, tout ce qu'il y avait de plus basique, finalement. Et visiblement, les gens n'ont pas pris comme ça, enfin, les gens, les critiques, enfin, les critiques, les journalistes, on va dire, pas les critiques ont compris. Et le souci était peut-être là, c'est-à-dire que ça passe quand même aussi par la langue, sauf que cette fois-ci, le but du jeu était aussi de montrer qu'au contact de la télé, la langue ne fait pas que de s'éroder, elle s'enfle, elle se liquéfie aussi, mais de façon assez particulière. Donc c'était aussi un travail là-dessus qui allait de pair aussi avec un travail narratif, c'est-à-dire que la syntaxe de la télévision est quelque chose qui passe beaucoup par les analogies, puisqu'en fait on zappe, même si, et à l'intérieur même d'ailleurs des documentaires, etc., la télé a aussi sa syntaxe propre avec un système de montage comme ça, où au moment où on se pose la question, la voix off répond à l'avance. Et du coup, j'ai travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations qui sont juxtaposées, qui font pas sens tout de suite pour certaines, qui vont faire sens 40 pages après, en étant mises, par juxtaposition, quoi. Et ça fonctionne comme ça souvent, quoi. Une information toute seule, ou même un paragraphe tout seul, peut-être qu'en soi, il n'est pas effrayant, ou il n'est rien en exergue de particulier, si ce n'est une anecdote. Et puis finalement, quand ça s'accumule petit à petit, ça finit par donner un autre sens.
Alors, par rapport au roman, est-ce que tu fais sienne cette appellation de roman expérimental? Est-ce que
Ah
tu
oui,
tiens
tout à fait.
à
Moi, je
ce
pense que
mot-là?
je fais de l'autofiction expérimentale. En fait, ça fait un petit peu longuet et ronflant, mais bon, tant qu'à trouver un mot, je pense pas faire du roman traditionnel. La narration traditionnelle, c'est pas un truc qui m'intéresse. Le néoclassicisme non plus. Le néo-réalisme, n'en parlons même pas. Et je fais pas vraiment de poésie non plus. Enfin, je fais pas de poésie puisque je m'intéresse quand même beaucoup, oui, à l'agencement romanesque, quoi. Ce qui est pas seulement, je veux dire, la notion de récit, parce qu'en poésie, oui, par exemple, le travail de Christophe Yates, lui, il parle de l'épopée. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on travaille la langue et les agencements qu'on fait plus du roman. Enfin, je pense qu'à la base, même le roman devrait toujours s'occuper de ça, peut-être prioritairement par rapport au synopsis, puisque le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on a tendance à avoir dans le roman mais grand public. Alors, le roman grand public, je pense pas que ce soit ce qui soit traité dans cette émission, mais c'est ce qu'a Pignon sur rue souvent, et ça ressemble finalement à un scénario de bouquin, enfin un scénario de film, pardon, qui est plus ou moins ficelé derrière, mais moi ça m'intéresse pas trop les histoires en fait. Moi c'est le comment les histoires se mettent en place qui m'intéresse le plus. Et puis, puis c'est vrai qu'avec ce livre-là aussi, je voulais revenir sur la notion de fiction collective, quoi, la fiction globale imposée et le rapport de chacun à sa narration propre et à sa fiction propre. Donc c'était aussi un peu comment interroger ces choses-là à travers cet ouvrage. Il y a plein de micro-pistes, en fait, dans le bouquin. Je crois que c'est peut-être celui qui est le plus beau... Enfin, pas celui qui fait le plus réfléchir, ce serait pas ça du tout. Mais disons qu'il y a le plus de choses dedans, je pense, au niveau des références un peu plus sérieuses que d'habitude, et politiquement aussi, même si, effectivement, il y a des citations de Julien Courbet. Mais peut-être que ça aussi, finalement, c'est malheureusement du politique, quoi.
On va y venir à cette notion de texte politique. Je voudrais revenir sur la qualification de roman, sur la qualification de fiction pour ton texte, parce que cela aurait pu très bien être un essai sociologique ou même un texte de témoignage. Pourtant, toi, tu as fait en sorte que ça soit ancré dans la fiction.
Oui, bah oui, parce que je pense, enfin d'abord l'essai sociologique, il y en a eu 300 000, et puis ça m'intéresse pas du tout. Enfin, j'en ai lu pour me renseigner un petit peu. Enfin, d'ailleurs, c'était plus des ouvrages de journalistes sur la télévision que des essais sociologiques à proprement parler. Mais bien sûr, la télé, c'est un peu la tarte à la crème. Hein, je veux dire, tout le monde en a parlé, tout le monde en parle. Il y a eu des quantités de romans dessus, mais bon, si on va aller par là, je vais pas. Enfin, les histoires d'amour qui sont souvent traitées aussi dans les romans, il y en a eu 75. Donc, le but, c'était vraiment d'essayer de prendre cette phrase de Lelay et d'essayer de travailler là-dessus sur, moi, petit cerveau qui ne veut pas être disponible, quelle est mon expérience par rapport à cette histoire-là, quoi. Et du coup, ça donne... il y a une narration, puisque il y a... Enfin, déjà, à la base, le bouquin, c'est pas un... Enfin, c'est un compte-rendu, finalement. C'est un dossier qu'on a retrouvé au ministère de la Culture et du Divertissement, puisque je crois qu'on commence à y arriver dans la réalité de façon assez vive et évidente. Et donc, en fait, c'est finalement des bribes, enfin, des pièces... qui compose un manuscrit qui, à la fin, sera refusé par le comité, puisque de toute façon, il n'est pas rentable potentiellement. Donc, ça ne sert à rien de le commercialiser, puisqu'il ne dégagera pas de bénéfices, qu'on ne peut pas l'adapter au cinéma, qu'on ne peut pas en tirer de produits dérivés. Et donc, du coup, le stockage étant inutile, il y a un fond pour destruction à la fin. Donc, c'est un livre très positif, qui est plein d'espoir et de bonheur pour l'avenir de la culture, mais bon. Enfin, c'était un peu ça. Donc il y a une voix, il y a ma voix. Enfin bon, c'est toujours pareil. Les personnages, parfois j'en crée des extérieurs, mais là c'était quand même une donnée d'autofiction. Donc il y a la voix du Chloé Delhomme sentinelle qui vérifie tout et je note tout. Et en même temps il y a la voix du dans plus tard. Voilà, c'est pas le futur, c'est le dans plus tard. Où en fait je suis passée de l'autre côté de l'écran, j'essaye de témoigner et de communiquer pour mettre les gens en garde une fois que je suis de l'autre côté. Et ça, effectivement, ça m'amusait pas tellement de le développer plus longuement. J'ai fait quelques pages là-dessus, mais il y avait un petit côté un peu SF, un peu clin d'œil aussi aux ouvrages de référence qui parlent de la télé là-dessus. Je pense à la Longue Marche ou à des choses comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup d'accumulation de références, comme il y a beaucoup d'accumulation d'images qui n'ont rien à voir dans la télé, qui petit à petit font très peur ou font sens, quoi. Et puis il y a aussi le problème de la fiction. Si on veut se reporter sur le problème de la fiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'utilise une sorte de parodie des principes de Vladimir Prop, donc sur la morphologie des contes de fées, en fait. Mais je l'applique à la Star Academy sur un petit passage. Mais en fait, c'est pour montrer le rapport, justement, de la fiction qu'il y a dans ces programmes-là. C'est-à-dire que le candidat de télé-réalité, à partir du moment où il apparaît à l'écran, c'est plus un corps humain pour le téléspectateur, et peut-être même pour lui-même, d'ailleurs. Et à partir du moment où il arrive, il devient un personnage de fiction. Un personnage de fiction qui est soumis, effectivement, à la morphologie des contes de fées. Il y a tous les... tous les stades, les séquences préparatoires, etc., qui ont lieu, et la reconnaissance du héros et tout ça, l'accomplissement de la tâche. Et puis finalement, c'est assez normal que le téléspectateur finisse par ne plus ressentir d'empathie, par ne plus le prendre pour un corps humain, et qu'on arrive à des pulsions de torture et meurtre, et à des pulsions du cirque, etc., de façon totalement décomplexée. Aux États-Unis, aux États-Unis, dans d'autres pays d'ailleurs, en France, nous sommes très préservés, mais les émissions de télé-réalité ne génèrent pas que des dépressions nerveuses chez la plupart des candidats. Il y a 8 suicides dans le monde, etc. Et je pense que ça ne passe pas que par la phase d'humiliation pour les candidats perdants quand ils sortent des émissions. C'est aussi effectivement cette décorporalisation, je pense.
Alors, j'aimerais... donc, là, ça me fait partir sur 1000 pistes. J'ai envie de te poser 1000 questions. Alors, on va partir sur un truc que j'ai noté que tu avais dit. Tu avais dit « J'habite dans la télévision » est un projet multisupport portant sur la confrontation des fictions individuelles face au formatage de la fiction collective imposée par la société spectaculaire.
Oui, alors ça, c'est terrible, parce qu'évidemment, il y a un moment donné où il faut faire une sorte de, pas de synopsis, mais bon, de petits trucs de communication. Effectivement, ça fait super ronflant, on dirait une étudiante en philo. Mais c'est quand même vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un travail que j'ai développé en performance d'abord, un petit peu comme, encore une fois, Corpus Simsi, parce que finalement, je les mets assez en parallèle dans la démarche et de là. C'est à chaque fois de l'autofiction un peu bizarroïde bossée en performance. C'est-à-dire que j'ai fait une quinzaine de perfs en tout. Donc le dispositif, c'était avec mon laptop. J'ai fait des pièces sonores qui servaient de bande-son. Et je lisais des textes par-dessus. Les trois quarts des textes n'ont pas été conservés dans l'ouvrage, à part ce qui m'a servi de matrice générale. Et puis l'introduction et la fermeture ont été réalisés en performance. Ça, c'est vrai. Après, ce que j'essayais de faire, c'était de prendre toujours une thématique d'étude en rapport avec le lieu ou le moment où je faisais la perf en question. Donc ça pouvait être, par exemple, sur l'érosion du biopouvoir sur le corps féminin, parce que j'avais fait ça en Belgique. En Belgique, je connais pas bien leur programme. Et donc j'ai fait un truc plus général sur la télé européenne et internationale aussi, les cas d'anorexie poussive, les tampax à la fleur qu'il faut absolument que les jeunes filles apprennent à se mettre tout de suite, parce que visiblement le corps féminin sont très très mauvais et les publicitaires sont les premiers à nous le rappeler. Enfin, des choses comme ça. Il y en avait d'autres qui étaient spécialisés dans la Star Academy, d'autres qui reprenaient avec des extraits sonores de passages télévisés de Sarkozy, des choses comme ça. Ça dépendait vraiment. Et à la base, normalement, le livre devait sortir avec un CD qui correspond à une des pièces, puisque le livre, c'est plein de petites pièces, comme des bouts du fameux manuscrit ou du dossier plus exactement en question. Les bandes sonores étaient là pour normalement être l'équivalent de, parce que c'est pas les mêmes que celles que j'ai fait en perse non plus, c'est des trucs que j'ai retravaillé derrière, et c'était l'équivalent d'un enregistrement de ce qui se passait dans mon cerveau pendant que je regardais tel et tel type de programme, en fait. Et du coup, ça donnait un tout où il n'y avait pas d'image. J'avais à un moment donné réfléchi pour travailler avec un vidéaste, parce que moi, je produis pas d'image, et j'ai pas un rapport très naturel à ça. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être terriblement redondant. Donc je me suis surtout occupée du son, parce que finalement, je crois que ce qui m'avait le plus marqué aussi dans cette expérience de télé qui habitait dans la maison autant que j'habitais chez elle, c'était la voix de la télévision, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que les gens regardent la télé, enfin en France, la moyenne, on est passé à 3h32 d'ailleurs. Moi, j'avais mis 3h30, mais on est passé à 32 ou peut-être même 33 par jour. Mais il y a beaucoup de personnes qui la laissent tourner sans la regarder vraiment. Et ce qui fait qu'indépendamment de l'image, il y a vraiment cette histoire de son, cette histoire de voix. Et de mots récurrents, et de syntaxe, et de formatage, et de bourrage de crâne, mais qui se fait de façon beaucoup plus insidieuse, en fait, que je pensais au début, en fait. C'était très diffus, et je me suis mise petit à petit à avoir moi-même des changements de pensée. Et c'était un petit peu tout ça aussi que je voulais mettre dans les bandes son, c'est-à-dire essayer de retraduire la machinerie qui écrabouille, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en disponibilité du cerveau? Ça veut dire qu'on creuse, qu'on fait un trou, qu'on libère de l'espace. Et voilà, moi j'avais envie de savoir quelle musique ça faisait aussi, la libération de l'espace de ce cerveau disponible, quoi. C'était un peu le but également. Et puis, je sais pas, ça avait un côté assez vivant finalement à travailler ce livre-là, en dépit des phases d'autisme avec la télévision qui parfois n'étaient pas très charmantes. Mais c'est un livre en fait qui me... Enfin, ce travail-là, ce chantier-là m'a accompagnée pendant 2 ans. Et ces 2 ans-là, c'est vrai que comme j'avais des performances régulièrement, ça me permettait aussi d'avoir un retour direct avec le public, ce qui m'arrive jamais vraiment. Et ça, c'était plutôt bien parce qu'il y avait vraiment un sentiment parfois de réellement communiquer des informations, ce qui n'est pas du tout mon cas habituellement, puisqu'effectivement, je fais des romans plutôt basés sur les problèmes de mon nombril. Donc, c'est pas souvent, je dirais, qu'il y a une sorte de transmission comme ça. Et ça, c'était plutôt plaisant.
Alors, c'est assez amusant parce que... La manière dont tu as fait le diagnostic sur la phrase que je t'ai citée sur le multi-support portant sur la confrontation des fictions individuelles face au formatage de la fiction collective imposée par la société spectaculaire, tout de suite tu as réagi en disant oh, c'est un peu de la philo à deux balles, mais pas du tout, parce que je pense que dans ton livre, Michel Foucault est très très présent, et ton livre, oui. En fait, c'est on y voit tous les effets du biopouvoir.
Bah moi j'aimerais bien, mais en même temps c'est vrai que là-dessus j'avais un petit peu un souci. C'est-à-dire, moi j'ai un peu le complexe de la fille qui s'est trimballée avec un philosophe quelques années en n'y comprenant pas grand-chose. Une fois qu'elle a compris, elle est partie en courant. Et du coup je crois que j'ai un petit peu le complexe des plus mitiges qui maîtrisent mal, qui ont beau avoir lu leur Foucault et leur Deleuze, le maîtrisent peut-être pas aussi bien que les gens qu'on doit visiter. Et en même temps, je trouvais ça, enfin, dans les lectures, mais j'ai pas attendu de travailler sur cet ouvrage-là pour m'intéresser à ce problème de avant même la phrase de Lelay, évidemment. Et c'est vrai que là où j'étais un petit peu embêtée, c'est que Foucault et Deleuze soient morts, et que Baudrillard, finalement, bah, il avait pas poussé plus loin, et il y avait beaucoup de personnes dont le travail sur les médias ou le biopouvoir me semble, enfin, c'est terrible pour moi, en fait, qu'il ne soit pas vivant à l'heure de la télé-réalité. En fait, voilà. Et du coup, c'était un petit peu compliqué parce que plus je fouillais, plus je me rendais compte que non, quoi. Enfin, j'ai vu le livre de Baudrillard sur Loana, c'était quand même juste une pure catastrophe, une petite pantalonnade, je dirais même. Et j'étais assez embêtée. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le livre, j'écris une lettre au fantôme de Deleuze pour le supplier d'intervenir d'une manière ou d'une autre, parce que j'étais un petit peu. Ouais, désarçonné, il y a des trucs chouettes chez Lacan, mais c'est pareil, il est mort, quoi. Et je trouvais ça bizarre, finalement, que dans les chez les jeunes penseurs et tout, ils s'intéressent beaucoup aux problèmes des banlieues et un tas de choses qui sont très importantes, soit à la mort de la politique classique. Et puis, moi, j'avais pas d'armes, en fait, alors que je demandais que ça, que c'était de trouver des clés ailleurs. Et je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Je me suis sentie... un peu désarmée, ouais, vraiment, par rapport à tout ça. Et du coup, j'ai été obligée d'aller rechercher dans des références qu'on m'a reprochées un peu comme étant finalement assez poussiéreuses, alors que pourtant, à mon sens, adaptées. C'est-à-dire qu'effectivement, ce livre fleure bon le post-situationnisme et c'est parfaitement assumé, mais en même temps, je vois mal... À part effectivement reprendre les analyses de Bordienne et rajouter du Foucault dessus, comment est-ce que je pouvais m'en sortir toute seule avec ça? Et en même temps, ça tombe sous le sens et je pense que c'est tout à fait valable. Et puis, c'est vraiment le souci. C'est-à-dire que Deleuze comprenait très très bien plein de choses avec la télévision. Il y a eu le problème de la télé-réalité qu'il n'a pas vu, et puis aussi la mise en place des annonceurs à ce point. Et le pouvoir des annonceurs est donc du coup une manifestation du capital. De façon aussi violente, quoi. Donc je sais pas, c'était un petit peu embêtant. Et puis c'est vrai que j'avais besoin de lire des choses qui étaient un peu d'un meilleur niveau que des simples rebonds. Et puis, c'était un peu embêtant. Donc finalement, j'ai plutôt beaucoup discuté avec des gens qui avaient des bonnes bases. Enfin, je pense à Eric Arlix, entre autres. Mais j'étais un petit peu... Enfin, d'habitude, ça me gêne pas du tout d'être toute seule quand je travaille, au contraire. Y compris quand il manque des ouvrages, mais c'est vrai que, je sais pas, je pense par exemple pour Certainement Pas, comme ça se passait dans un HP, que c'était tous mes personnages avaient des psychoses ou des maladies mentales précises, bah j'avais des dicos, dès que j'avais un trou, il suffisait que je tape Google ou que je demande à la bibliothèque du coin un ouvrage sur tel truc et hop, je trouvais. Là, c'est pour ça aussi que je me suis dit au bout d'un moment, bon bah de toute façon, comme c'est pas un essai, je vais passer par leur senti, et puis avec ces clés-là, je verrai toute seule. Et puis, si après, au niveau de la pensée, ça tient pas la route, bah, c'est vraiment pas grave, parce que c'est pas de la pensée. Donc, c'était pas... Oui, c'était pas grave.
Mais malheureusement, par rapport à ce que tu dis, ton livre pense, enfin, je pense à certaines tirades, la fiction collective s'est imposée des cartes en guise de territoire. C'est fort, ça pense, quand tu dis que la télévision n'est pas responsable d'un réel une fois qu'elle ne le filme plus, et que tu ajoutes « la télévision ne peut être responsable d'aucun réel qu'elle insinue », j'ai pas l'impression d'avoir trouvé d'autres phrases comme ça dans un livre de sociologie, par exemple sur la télévision, parce que ça, c'est des phrases de littéraire, c'est des phrases de littérature, et c'est là où j'ai envie de te questionner maintenant, c'est que tu en fais une littérature politique, ton livre, en fait, c'est un livre de fiction politique.
Oui, pour celui-ci, oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espérais que ça donne, parce que c'était... Enfin, c'est pareil, c'est une question aussi de timing, quoi. Enfin, puis l'état dans lequel je me trouvais, c'est vrai que c'était pas de la colère basique, c'est pas un pamphlet. Et en même temps, mais peut-être qu'on peut faire aussi du politique sans faire du pamphlet. Ouais, j'ai essayé de cumuler comme ça un certain nombre de choses, mais là-dessus, c'est vrai que je suis pas très douée pour en parler. Je peux parler des heures sur les aventures du lyrisme et de l'absence de ponctuation, mais j'ai beaucoup plus de mal sur les choses plus sérieuses parce que finalement, c'est comme si je débutais presque sur ce terrain-là. C'est-à-dire que si, dans certainement pas, vu que c'était quelque chose qui était sur le basculement et le problème de l'éthique, la perte de la parésia ou des données comme ça, oui, on retrouvait Foucault déjà, mais c'était plus en finigramme. Corpus Ipsi, c'était vachement Debord, mon copain. Et là, j'étais plus sur des données concrètes et avec un truc un peu casse-gueule, effectivement, parce que les gens ne comprenaient pas. Quand je disais que je travaillais sur la télé, personne ne comprenait, quoi. Enfin, à part chez mon éditeur ou à la maison, mais les gens avaient tellement la sensation qu'il n'y avait rien à en dire. Et comme, enfin, je sais pas, c'était. Enfin, je suis assez mal à l'aise, finalement, sur la. Le parler de ce livre, je sais pas, il faut me poser encore des questions toute seule.
Je vais te dire vraiment ce qui m'a intéressé, c'est que ce livre-là, ça soit de la fiction, que ce livre-là, ça soit de la littérature, et que toi, tu dises que c'est un roman. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu fais faire à la littérature. Là, on est en plein dans les enjeux de la fiction et de la littérature. Tu fais faire quelque chose à la littérature. Ce livre fait faire des choses à la littérature.
Bah, je crois aussi que c'était une réaction par rapport au problème du divertissement. C'est-à-dire que moi, j'arrive à un stade en tant que lectrice, là, même pas en tant que praticienne, d'épuisement absolu face à cette espèce de grand règne. On n'est même plus dans l'imposture divertissante, puisque maintenant, c'est déclamé comme étant divertissant. Donc voilà, maintenant, les livres sont là pour faire passer aux gens de bons moments, avec de sympathiques historiettes. Et moi, c'est vrai que j'en peux juste plus. Donc, en fabriquant les choses, j'essaye de livre en livre de maîtriser un petit peu plus différents modes stylistiques, parce que bon, bah, enfin, je veux dire, ça fait seulement 6 ans que je publie, 7 ans que j'écris, donc je maîtrise pas encore tout très bien, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais j'essaye de bosser d'ouvrage en ouvrage, un peu plus sur la stylistique, un peu plus sur les agencements, etc. Et là, j'avais vraiment envie de me démontrer à moi aussi qu'on pouvait prendre par le biais du roman un sujet comme ça, et qu'on pouvait, pas juste... Moi, je sais bien vomir, par exemple, c'est un truc que je sais vachement bien faire, mais là, j'avais envie vraiment d'affirmer et de transmettre, quoi. Et la transmission, finalement, c'est vraiment la première fois, au même titre que c'est la première fois, mais c'est peut-être parce que c'est passé par les performances où je disais vous, en parlant aux gens pour leur asséner des trucs, c'est que là, pour une fois, je pensais au lecteur. Parce que j'étais aussi dans une... Oui, toujours ce mot que je n'arrête pas de répéter en boucle, de transmission et d'information. Mais c'est vrai que j'étais plus dans une donnée comme ça. Peut-être sans ça aussi que je me suis rendu compte que la démarche était peut-être un petit peu plus politique que purement littéraire. Parce que c'est vrai que dans mes travers, j'ai un petit côté littérature décorative parfois, quoi. Je sais que si je me laisse faire, j'essaye de me sabrer de plus en plus. Mais si je tiens pas la bride, j'ai tendance à faire du lyrisme très, très dégoulinant sur des paragraphes en trouvant ça très très joli en me pâmant toute seule, alors que c'est peut-être pas avec ça que je peux faire avancer trop le schmilblick. Et puis c'est des trucs d'influence aussi. C'est vrai que ces dernières années, j'ai plutôt lu des personnes comme Eric Harling, Suc Jalon, ou même Bouvet. Bah, Bouvet, je le disais avant, mais disons que chez eux, il y a quand même une notion de propos qui prime. Je pense que ça a dû m'influencer directement. Je réponds pas à la question de Nico. C'est horrible.
En partie.
Je fais des efforts, on va dire que c'est les antibiotiques.
Pour terminer, j'aimerais te questionner sur toi en tant que passeuse de texte et sur ton travail, notamment au comité de lecture du Seuil, par exemple.
Oui, alors c'est un petit peu la fête, là, puisque outre la fermeture d'Aldante, de Compact, des éditions Ligne, Farago dépose le bilan aussi. Donc nous sommes, pour tout ce qui touche au texte poétique expérimental, dans une configuration très agréable. Et jusqu'à vendredi dernier, le Seuil devait, sous la houlette de Laura Adler, ouvrir en mars deux nouvelles collections. Une qui devait être tenue par François Bon, qui permettait justement à des textes expérimentaux qui étaient trop, disons, oui, trop expé pour être dans chez Fiction et Compagnie, qui est tenue par Bernard Comment, qui est censé être quand même un petit peu plus roman. Du coup, ça devait ouvrir un nouvel espace. Et puis moi, j'étais dans le comité de lecture d'une collection qui devait s'appeler Poésie et Compagnie, dans lequel il devait y avoir 8 à 10 objets par an. Et nous devions commencer, entre autres, par des Eugène Green ou des personnes qui sont déjà installées, mais un texte d'Emmanuel Rabu qui s'appelait Trifon Tournesol et Isidore Isou, auquel je tenais beaucoup, et qui est casable difficilement, puisqu'effectivement, toutes les maisons qui font de l'expé ou de la poésie sont actuellement décédées. Et donc, Laura Adler s'est fait virer vendredi, soudainement. Ce qui fait que nous avons, je pense, si on calcule sur l'année, la collection de Bon, plus la collection de poésie, plus une autre collection qu'elle-même avait lancée, qui devait être un petit peu plus bizarre, mais avec des romanciers tradis qui se frottaient à d'autres choses. Je pense qu'il y a une trentaine d'ouvrages qui passent à la trappe. Je pense qu'actuellement, avec toutes les fermetures que je viens de citer, on a bien une bonne vingtaine d'auteurs sur le carreau, dont une bonne quinzaine de poètes. Et là, je suis un petit peu désespérée. Enfin, je pense qu'il y a moyen de rebondir. C'est-à-dire qu'on a il y a des petits éditeurs qui arrivent quand même à exister très correctement, les éditions R, etc. Il y a aussi les éditions Naïfs qui, pour l'instant, avaient juste fait Naïf Session, qui étaient des petits objets où les auteurs racontaient des choses autour des chanteurs ou des trucs de rock. Ils ont une collection qu'on va appeler Blanche, qui est en train de se mettre en place. Je pense que d'ici peu, il devrait y avoir... Enfin, je sors d'une réunion, j'ai fait rencontrer Tariq Nouy, qui est un garçon dont vous trouverez les ouvrages chez Melville. Il faut absolument lire Tariq Nouy. Peut-être qu'il y a un espoir par là, mais c'est vrai que là, on a une sorte de fermeture d'espace très, très violente. Je ne suis pas certaine qu'on soit prêt pour que des éditions numériques ou des choses qui reviennent moins chères puissent trouver de la place, un fonctionnement et du public. Et là, effectivement, j'étais tout à fait contre le discours des clinologues jusqu'à ce week-end, où effectivement, dimanche, j'ignorais, puisque j'ai appris dans Libé lundi et j'avais ma réunion cet après-midi que Laura Adler avait été virée. Je pensais qu'on allait s'en sortir. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles. Je veux dire, il y a un bouquin de Philippe Boinard qui s'appelle Pancake, que j'avais lu en 2001. J'avais essayé de le faire passer chez Farago, ça n'avait pas marché. Bon, il l'a retravaillé, ça sort chez Hermaphrodite là. Donc oui, ça prouve bien qu'il y a quand même des espaces, mais on peut pas nier non plus que les éditions hermaphrodites pour un poète, c'est quand même moins pratique pour pouvoir vivre que d'aller au Seuil, quoi. Donc, je pense qu'Hervé de la Martinière persiste et signe dans son immense connerie et je suis assez mécontente. Je ne suis pas la seule d'ailleurs et je pense que le Seuil était en train de remonter, était sur le point, je pense, dans encore un an et demi et la maison récupérait pas seulement le panache, parce que ça on s'en fout, mais vraiment un catalogue sérieux avec des pistes, parce que depuis que Vertical a quitté le Seuil, ils n'ont plus vraiment de secteur expé, même si chez Fiction et Compagnie, il y a eu par exemple l'excellent bouquin d'Emmanuel Pirard, Comment faire disparaître la Terre, ça c'est vrai que c'était bien, mais la collection de Bernard Comment, qui avant était par Denis Roche, Fiction et Compagnie, c'est très bien, c'est pas le souci, mais c'est vraiment que eux normalement devraient avoir les moyens de soutenir ces trucs-là et c'est les maisons qui ont des sous qui font de la rentabilité absolue. Et évidemment, oui, un objet de poésie, vous n'allez pas réussir à en vendre plus de 400 dans le très meilleur des cas, mais je pense que c'est vraiment juste scandaleux et ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas tellement d'armes pour lutter, à part essayer de multiplier des micro-espaces qui ont un mal fou à tenir, quoi. Donc c'est un peu glauque, parce que le livre est censé bien se porter d'une certaine manière, puisque Harry Potter est à lui tout seul avec le Da Vinci Code, c'est bien, il nous sauve 20% du chiffre, mais bon, c'est voilà, c'était la minute de Monsieur Cyclopède qui était mécontent.
Et bien, le mois dernier, c'était C'était Thierry Guichard, directeur du Matricule des Anges, qui nous
tenait
le même discours. Et là, tu nous apprends là, des nouvelles bien catastrophiques.
Ah oui, j'ignorais que. C'est catastrophique, mais c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que si on regarde très, très concrètement, je veux dire, il y a des gens derrière les bouquins, il y a vraiment une vingtaine d'auteurs. Qui vont aller nulle part. Il faut savoir que POL et toutes les maisons rattachées à Gallimard, de toute façon, il y a des réductions budgétaires qui font que leur production est diminuée de quasiment 50%. Je veux dire, moi, je suis chez Vertical, ils font ce qu'ils peuvent, mais je constate aussi que, par exemple, les Minimales, qui sont des livres avec CD, qui, à part quand c'est sur des musiciens connus, quand c'est tombé sur le livre de Canta ou de Dominica, c'est des choses qui se vendent assez mal. Enfin, qui se vendent assez mal, c'est correct, mais évidemment, on ne dégage pas de gros bénéfices avec ça. Eh bien, ils vont en ressortir quelques-uns, mais on n'est plus du tout dans les taux de production précédents. Enfin, donc ça veut dire déjà que... Enfin, je vais même prendre un exemple très simple, si j'ai deux secondes, qui est complètement aberrant. C'est que Gallimard, donc, possède POL, Vertical et Joël Losfeld. Masséra avait des ouvrages qu'il ne pouvait pas mettre chez POL parce que le catalogue était trop tendu, il n'y avait pas de place, etc. Résultat, Masséra fait un bouquin chez Vertical parce que le catalogue de POL est trop plein. Vertical étant financé par Gallimard exactement comme POL, on est quand même chez les maboules. Là. On arrive à un stade de profonde connerie. Et comme le lectorat est déjà pas mal nivelé par le bas entre les gros coups éditoriaux des grosses maisons qui ont arrêté de faire du qualitatif depuis fort longtemps, les médias qui adorent avoir des romancières débiles avec des jolis seins dans la télé et puis des chroniqueurs, écrivains qui sortent de Sciences Po avec des cheveux bien coiffés, bon ben voilà quoi. Enfin, c'est assez terrible. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'on va pas me faire gober que le groupe Lamartinière n'a pas les moyens de sortir 8 objets de poésie par an, enfin 8 objets de poésie par an et une dizaine de romans expérimentaux par an. Sachant en plus que, de toute façon, ces maisons-là demandent des subventions au CNL. Subventions qui peuvent, par contre, être refusées à des micro-maisons comme ICO et compagnie. Donc là, il y a grosse fatigue. Et puis surtout, il y a inquiétude, vraiment. C'est-à-dire que, bon, en plus, j'ai pas de pouvoir. Enfin, jusqu'à présent, et puis je pense que je vais le rester longtemps parce que le pouvoir m'intéresse pas. Et puis de toute façon, j'ai pas le CV assorti ni le réseau. Mais le but du jeu, c'est quand même d'essayer de faire une passation collective, quoi. Même si on a tous des pratiques super différentes, que sur le champ de la littérature contemporaine, enfin poésie compris, je veux dire, mais pas le livre, qui est un mot qui me dégoûte compte tenu de ce que c'est devenu, ben, on arrive à être quand même suffisamment de plein de petites constellations pour que ça fasse peut-être pas bloc, mais qu'il y ait autre chose qui existe. Partie comme ça, je vois assez difficilement comment des poètes peuvent encore, enfin comment la poésie déjà va pouvoir survivre, parce que il reste chez les grosses maisons, voilà, il y a un petit secteur chez Flammarion où on peut retrouver Philippe Beck, Espitalier, etc., mais ils prennent pas les jeunes. Moi, la poésie sonore, je sais pas ce qu'elle va devenir, sincèrement. Fermeture d'Aldante et de Compact derrière, qui aurait pu éventuellement, je pense, récupérer un ou deux trucs, on ne sait jamais. Bon, là, je sais pas, la poésie sonore, j'en sais rien. Il y a un tas de formes d'écriture comme ça, je sais pas. Patrick Bouvet et Jean-Hubert Gaillot, par exemple, pour prendre des expérimentaux qui sont plus en forme hybride, je dirais, ils sont chez l'Olivier, ils y sont très bien. Il y a aussi Christophe Honoré qui est là-bas, qui fait des choses super intéressantes et un peu bizarres. Mais l'Olivier, ce qui l'intéresse, Olivier Cohen, c'est de développer son secteur américain, où il fait un super boulot d'ailleurs. Mais il va pas réengranger des Français, ça c'est sûr. Donc, Vertical, ils peuvent pas non plus avoir un catalogue extensible. En plus, Gallimard va pas leur donner des sous ad vitam aeternam, et puis commence déjà. Enfin, voilà quoi. Donc ça veut dire des auteurs sur le carreau. Est-ce que ça peut être récupéré par les petites maisons? Je n'en suis pas sûre. Est-ce que les auteurs vont pouvoir survivre? Sachant quand même, quand ils allaient dans des maisons moyennes, il y avait un peu d'avaloir qui permettait de vivre quand même pendant quelques mois. Je ne sais pas. Le CNL, d'un autre côté, réduit ses bourses aussi, notablement. Les résidences sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus difficiles. Enfin, il y a une vraie question, et c'est vrai que ça va te perdre un petit peu avec la situation globale de ce magnifique pays, quoi. Mais c'est un petit peu. Enfin, ce qui est énervant, c'est de savoir que de toute façon, il y a quand même des sous, quoi, et que c'est juste utilisé en dépit du bon sens. Donc voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Je pense qu'après ça, tout le monde va prendre un examen et aller où.